Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 34e de la saison, pour cette 5e saison d'ailleurs. Bonjour Nicolas Saint-Cluc.
Bonjour Jean-Claude.
Et alors je ne dirai pas bonjour Michel aujourd'hui parce que exceptionnellement mon coéquipier habituel Michel Santo est absent pour cause d'aphonie grave. Il s'est retrouvé totalement aphone.
Ce qui est un comble pour Michel. Et par contre, moi, je lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. C'est vrai que Radio Barque sans Michel, c'est pas tout à fait un Radio Barque.
Voilà, c'était une émission qui au démarrage s'appelle toujours Contre-regard sur l'actualité et qui reste basé sur des écrits sur le blog de Michel Santo, contre-regard justement sur l'actualité. Alors même en l'absence de l'écrivain, enfin de l'orateur plus exactement aujourd'hui, on va quand même rester dans la note et s'appuyer sur les billets, parce que je rassure ses fans, malgré son aphonie grave, Michel a gardé la plume et a pu publier cette semaine un certain nombre
de billets doux.
Plus, ou aigre, enfin, au choix.
Aigre, enfin.
Bon. Et alors, on va donc parler d'abord de ce que lui voit comme l'avenir, alors un avenir plus ou moins compromis, selon lui, des deux grands partis, les Républicains et le PS. Dans une deuxième partie, on parlera de quelques amendements ou ajouts au projet de loi à la dite loi de mobilité, c'est-à-dire en fait sur les transports, avec la question, faut-il interdire certains vols intérieurs en France sur une certaine distance et sur un certain temps? C'est une question qui est posée. Et on terminera par un petit mot. Alors ça, c'est presque un feuilleton. Ouais, c'est pas presque, c'est un feuilleton. C'est la communauté de communes Corbière-Salanque qui a été constituée des deux côtés de la frontière, à cheval sur les PO et l'Aude. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave étant que c'est une communauté de communes qui a un certain nombre de difficultés à fonctionner correctement. Alors, commençons par ce billet sur la question posée, que vont devenir les deux grands partis qui ont été sévèrement malmenés aux dernières élections européennes? Et alors Michel Santo écrit, et alors là je le cite puisque ce n'est pas lui qui se cite habituellement, croire que ce bouleversement de grande ampleur ne serait que la conséquence du pouvoir d'un homme, Emmanuel Macron, et de sa seule capacité à instrumentaliser des masses considérables d'électeurs et les dirigeants des ex-grands partis dits de gouvernement, est d'une stupidité totale, écrit Michel Santo. Une manière aussi, selon lui, de se défausser de ses propres responsabilités sans rien remettre en cause de ses orientations et de ses pratiques. Et si le PS et les Républicains sont aujourd'hui, je cite, pulvérisés, c'est tout bonnement parce que la sensibilité social-démocrate classique alliée à la gauche de la gauche et la libérale conservatrice alliée au centre-droit ne sont plus audibles par les Français et les électeurs. Alors, vous, Nicolas Saint-Cluc, donc je rappelle que vous êtes d'abord conseiller municipal d'opposition à Narbonne, vous êtes également conseiller communautaire dans le Grand Narbonne et conseiller départemental à Carcassonne pour l'Aude. Donc vous êtes en plus membre du Parti Socialiste.
Tout à fait.
Donc vous êtes en plein dedans. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il?
Alors, je suis pas aussi catégorique que Michel.
Bon,
sans doute. Je pense, bien sûr qu'on peut pas dire que c'est la faute d'un seul homme et que parce qu'il y a tant qu'il y a Emmanuel Macron, bien les choses seront ainsi. Lorsqu'il disparaîtra ou lorsqu'il se retirera de la vie politique, les choses reviendront dans l'ordre entre guillemets. Il n'y a pas d'ordre, surtout pas dans ce domaine. Je pense que il y a une évolution de la société. Et je crois que aussi des messages n'ont pas été clairs. Je crois que les gens disaient que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, c'est toujours la même manière de l'exercer et il y a très peu de différences. Et à force de pas avoir les différences, effectivement, ça crée un flou. Aujourd'hui, ce que l'on voit quand quand même, lorsqu'en tout cas on discute avec les gens, on voit qu'il y a une volonté de défendre quand même toujours les plus faibles. La technique, la théorie du ruissellement, je crois que personne n'y croit. Moi, je trouve aussi que...
Oui, c'est une théorie remplacée par une autre.
Oui, c'est remplacée par une autre, mais enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement le modèle social. Quel modèle social on veut définir, et un lien avec l'écologie. Et moi, je me réjouis que l'écologie soit aujourd'hui très très importante. Alors, moi, il se trouve qu'au niveau du département, on m'a confié les énergies renouvelables, et donc ce problème qui fait partie de l'écologie, qui est une des solutions parmi d'autres, hein, puisqu'il y a aussi la manière dont on doit aussi consommer. Enfin, il y a tout un modèle de société à revoir.
Mais ça, on va y revenir dans une troisième partie, parce que je rappelle que dans une troisième partie, Nicolas Saint-Cluc, vous serez notre invité.
Mais en ce qui concerne en tout cas cette difficulté de savoir si effectivement l'EPS et les Républicains sont pulvérisés et on annonce la chronique d'une mort annoncée, je ne partage pas cette vision. Oui, je pense qu'il faut au contraire prendre ses responsabilités, comprendre pourquoi effectivement on a défailli, pourquoi les gens n'ont plus confiance, essayer aussi de se regrouper, parce que je crois qu'on est le problème que l'on a aussi, c'est qu'on est
un éparpillement
qui est considérable, et donc il faut retrouver quels sont nos points de convergence, vers quoi on va aller, refonder un projet commun, et à partir de là, effectivement, proposer une nouvelle page d'histoire à nos concitoyens.
Oui, mais là, tout le problème est dans les égos, parce que c'est là que le bât blesse, finalement. Tout le monde est d'accord pour s'unir, à condition qu'on s'unisse derrière son panache blanc, à lui. Donc,
oui, bon, c'est vrai que les égos, c'est pas nouveau. Je crois que des égos, il y en a toujours eu beaucoup. Après, c'est vrai que par le passé, il y avait peut-être des personnes qui s'imposaient de manière plus évidente, on va dire. Peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens talentueux aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une société aussi où il n'y a pas qu'un seul modèle. On voit bien, il est difficile de partager aussi que des valeurs communes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Donc c'est vrai que il faut revoir aussi cette manière de procéder. Est-ce que on le voit, regardez, au niveau, je fais une parenthèse, mais quand on voit le RSCNM aujourd'hui, il y a une volonté de le diriger à plusieurs têtes. Je crois que parfois il faut aussi réussir à se dire, mais oui, il faut bien qu'il y ait un chef, mais un chef qui n'est pas omnipotent, c'est-à-dire avec des délégations et qui partage le pouvoir. Comment on prend les décisions? De quelle manière sont-elles prises? Est-ce que c'est par un seul homme ou par une équipe?
C'est-à-dire ça serait la fin, pardon, pour vous, de l'homme providentiel.
Ah, je pense, oui. Oui. On a une image très christique, c'est normal. Hein. On est empreint par notre civilisation de cette volonté d'être mené par un homme ou une femme. Puis surtout, c'est très rassurant hein, de donner les clés à une personne et puis en se disant que si elle échoue, c'est sa faute et si elle réussit, c'est grâce à nous.
Et puis un patron, quand c'est un vrai patron, on lui obéit bon gré, mal gré.
Bien sûr.
Peut-être un tout petit point d'histoire justement là-dessus. En 1993, le PS avait déjà pris une sacrée déculottée. Oui. Dans ce département, il avait perdu ses 3 députés socialistes. C'est quand même marquant.
Tout à fait.
Bon. Et comment expliquer que quelques années à peine plus tard, eh bien, Jospin, au premier tour de la présidentielle en 95, était en tête. Oui. Et puis, 2 ans plus tard, après la dissolution plus ou moins malencontreuse, se retrouvait Premier ministre. C'est-à-dire que 4 ans après une déculottée, le PS était de nouveau triomphant. Comment expliquer que ça ait réussi à ce moment-là? Et est-ce que c'est un modèle pour vous qui serait transposable aujourd'hui ou demain?
Non, je pense pas qu'on puisse se retransposer. C'est pas le même contexte. Il y a pas les mêmes raisons, je pense. On le voit bien dans les discussions avec les. Moi, je vois. J'ai commencé le porte-à-porte et quand on discute avec les gens, on s'aperçoit que ils ont besoin d'une feuille de route surtout. Et ils ont l'impression qu'il y en a plus en fait. Et c'est pour ça que on le disait. Hein, la reconstruction du PS va être longue, difficile. Et je m'attendais pas moi à ce qu'on fasse des scores mirobolants. Dès aujourd'hui, surtout après justement s'être déchiré entre nous, voilà. Donc il est normal qu'il faut du temps. Hein. La réflexion et créer une nouvelle feuille de route, ça prend du temps. Et donc il est normal que pour l'instant nous soyons dans cette situation. Après, voilà, comme vous le dites, il faut se méfier. Les choses peuvent aller très très vite. Les gens sont aussi très versatiles. On peut au lendemain préférer telle chaîne que telle autre. Et ça devient un peu pareil pour la politique, ce qui est un peu malheureux. Hein, mais voilà, c'est c'est notre responsabilité, c'est de prendre tous ces éléments-là en compte et de faire en sorte qu'on puisse, je vous dis, avoir une feuille de route claire, précise, sur laquelle on ne doit pas déroger.
Voilà, eh bien, on va marquer une première pause pour cette exploitation un petit peu inhabituelle du blog de Michel Santo, dont je rappelle à ceux qui prendraient l'émission en route aujourd'hui qu'il est absent pour cause d'aphonie.